كم قاد الخوف خطوانا مضمى فلا نجد بئران نجوع فينفدوا الزاد.
Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouvel épisode de Transversar. Aujourd'hui, je vais à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne pour voir l'exposition Middle Earth, signée Maria Teresa Alves et Jimmy Durham. On en discute avec Charlotte Morel, qui a participé à la préparation de cette exposition.
Jimmy Durham est originaire d'Amérique du Nord, et Maria Teresa Alves plutôt d'Amérique du Sud, du Brésil. Et ils se sont connus très tôt dans leur carrière. Enfin, Jimmy Durham est un petit peu plus âgé que Maria Teresa Alves, mais il était déjà dans une pratique artistique très, très engagée. Quand Maria Teresa en fait, a connu son travail, a fait connaissance avec la personne de Jimmy, et ils ont continué leur route artistique ensemble, jusqu'à aujourd'hui en tout cas.
Cette exposition, elle est consacrée à la Méditerranée. Comment est-ce que ce territoire est lié à ces deux artistes ?
La Méditerranée et même plus précisément au départ, l'idée du Midi. Les deux artistes en fait, avaient dans leur problématique depuis un certain temps des préoccupations qui touchaient ou qui recoupaient les identités méditerranéennes. Et l'idée du Midi et de ce projet méditerranéen a germé petit à petit, est devenu quelque chose de conjoint, enfin, de commun à tous les deux. Et l'histoire voilà, a démarré, on va dire, au début des années 2000, quand ils étaient à Marseille, tous les deux.
Et quelle est la manière dont ils abordent ce sujet alors, avec cette exposition ?
L'idée, c'est d'avoir une vision un peu à la fois très personnelle et à la fois parcellaire, kaléidoscopique en tout cas, de la Méditerranée, qu'ils ont appelée Middle Earth pour leur titre d'exposition. Historiquement, ils se plaisent à raconter que voilà, il y a d'anciennes cartes, notamment à l'Antiquité, qui déjà délimitaient cette mer au milieu des terres et qui, du coup, rassemblaient autant qu'elles séparaient, étaient elles-mêmes en fait une espèce de zone géographique, bien qu'elle soit remplie d'eau, qui compilait beaucoup de choses. Et dans cette exposition-là, ils ont, je crois, essayé de rendre compte de la façon dont ils ont eux cheminé pour comprendre ce qu'était ce territoire de Méditerranée. Donc ils ont compulsé, enfin fait une sorte de corpus de références totalement parfois anachroniques, enfin transhistoriques. Il y a beaucoup d'emprunts qui sont faits, qui sont mêlés étroitement avec des choses qu'ils ont eux-mêmes créées, donc qui sont très contemporaines, des dessins, des sculptures. Il y a aussi des objets qui n'ont pas de statut à proprement parler d'œuvres ou d'objets d'art, mais qui sont des choses avec lesquelles ils travaillent et qui constituent leurs référents, on va dire. Des silex, des répliques de crânes, des plantes, des morceaux de verre. Et tout ça est mis en dialogue dans l'exposition. Je crois qu'il y a vraiment cette idée qui est revenue plusieurs fois dans la bouche des artistes, qu'ils avaient composé un peu cette expo comme on composerait un poème, avec différents versets, différents couplets, différentes strophes, que chacune d'elles n'avait pas de lien logique forcément ou chronologique, mais qu'elle pouvait permettre, une fois qu'on en avait traversé l'exposition, comme on aurait terminé de lire un poème, d'avoir une sorte d'impression, encore une fois très subjective, hein, très personnelle, un peu empirique des fois même, sur l'idée de la Méditerranée. Et le projet en lui-même est porteur d'une vision un peu lyrique de l'exposition.
Et cet aspect sensitif, il vient aussi du fait que c'est des pièces très immersives.
Mmh. C'est pour les gens qui sont venus voir, qui vont venir voir l'exposition, c'est vrai que ça change beaucoup en termes d'ambiance de ce qu'on présente d'habitude, puisqu'il y a les murs sont parfois peints de manière avec des couleurs très chatoyantes ou au contraire très pastel, mais ça connote déjà beaucoup l'ambiance des salles. On a de la musique, on a des odeurs, il y a beaucoup de végétaux, il y a de la nourriture qui est là. On peut s'asseoir sur certains éléments, on peut toucher certains éléments, d'autres non. Il y a des textes, il y a pas mal de choses de lire. En fait, il y a un rapport au temps qui est très différent. Et ça crée effectivement des atmosphères bien particulières d'une salle à l'autre. Et l'atmosphère générale de l'exposition, oui, elle accompagne beaucoup le visiteur, ça c'est sûr.
Au sein du parcours qu'on peut faire dans l'exposition, on a un peu l'impression qu'il y a des figures tutélaires, c'est ce qui est écrit dans le guide. Alors c'est quoi déjà le murex, c'est l'arbousier ?
Il y en a quatre. Les artistes ont vraiment insisté sur cette donnée-là, c'est que, on va dire, quatre guides, comme des sortes d'habitamulettes, en fait, ça reviendrait bien dans le ton de l'exposition. Donc il y a effectivement l'ibis sacré, le phoque moine, qui est présent à travers la réplique en plastique d'un crâne, l'arbousier, qui est également représenté en peinture, enfin son fruit en tout cas, et le murex, effectivement, qui est un coquillage, enfin un mollusque. Ces quatre guides-là sont choisis spécifiquement parce qu'ils sont tous les quatre menacés de disparition tangible, c'est-à-dire une disparition de la surface de la planète. Comme l'arbousier, plutôt de manière intellectuelle, qui pourrait disparaître des mémoires, puisque c'est un arbre qui est encore très, enfin, un arbuste qui est encore très très présent sur le pourtour méditerranéen, mais qui a disparu un peu des mémoires de nos sociétés, mais qui était extrêmement populaire sous l'Antiquité et qui était le symbole, paraît-il, c'est ce que nous disaient les artistes, de l'Italie, fut un temps. Très, il pousse dans des endroits très très coriaces, très hostiles, il n'y a pas beaucoup d'arbustes qui résistent. Mais son fruit, et c'est ce qui intéressait beaucoup les artistes aussi, c'est sa capacité à s'adapter et à résister, puisque le fruit met un an à mûrir, ce qui signifie que l'arbre fleurit et produit des fruits en même temps. Et ce qui est assez beau et d'un point de vue symbolique assez fort aussi. Et le dernier élément, c'est le murex, qui est effectivement lui aussi menacé d'extinction, qui est un coquillage qu'on pourrait penser assez banal quand on voit simplement sa coquille, mais qui est en fait un mollusque qui était très recherché et qui avait une très grande valeur marchande sous l'Antiquité également, pour la teinture que l'on peut produire grâce à l'extraction, on va dire, de la teinte que peut produire le mollusque quand il est menacé, quand il est de mort. Un peu comme le poulpe, en fait, qui jette de l'encre, et qui produisait du coup ce murex, une teinte pourpre, très très belle et très durable dans le temps. Et donc, que ce soit des espèces végétales ou animales, ces quatre guides-là sont un peu des figures qui donnent le ton dès l'entrée de l'exposition. Il ne va pas s'agir, même si ça peut paraître assez léger et inspirant, cette exposition de la Méditerranée, il s'agit quand même d'une exposition assez grave, avec un ton assez grave, qui va aborder sans en avoir l'air des problématiques un peu environnementales, environnementales écologiques et sociopolitiques aussi.
Dans la salle consacrée à la pourpre, on a une photographie de la reine d'Angleterre. Est-ce que c'est du cynisme ? Il me semble qu'il y a écrit « La pourpre, plus elle vieillit, plus elle est vive ». Et puis on a cette photographie de la reine à la pourpre.
Ouais, alors j'ai interrogé pas mal les artistes à ce sujet, ils ont fait un peu de langue de bois, je dois dire, mais je pense que c'était aussi par ironie. Il y a un côté effectivement critique, je pense, qui n'est pas forcément revendiqué, mais qui est plus ou moins assumé quand même par les artistes. D'avoir choisi cette photographie-là de presse, cette coupure de presse, c'était un peu piqué, un peu au vif, la société contemporaine. Et de mettre aussi en rapport cette icône royale qui n'a plus vraiment de rôle actif au sein d'un pays et d'un gouvernement, qui est plus une figure symbolique. Et le mettre à côté du murex, de ces grandes teintures pourpres, justement, c'était un peu revenir sur quelque chose qui est déjà évoqué dans les salles d'avant, par le texte notamment, sur l'empire colonial, sur la prédominance de grandes puissances. Et le murex est un symbole très fort pour Jimmy Durham et Marie-Thérèse Alves de l'ambiguïté, de l'ambivalence de la nature humaine, de pousser le raffinement jusqu'à la cruauté, en fait, d'obtenir une teinte absolument envers et contre tout pour pouvoir teinter des vêtements royaux. La pourpre était devenue une couleur très très associée à la royauté, au pouvoir sous l'Antiquité. Rapprocher ces petits coquillages tout simples, tout vulnérables en fait de la figure de la reine, je pense que c'est vraiment une manière de faire dire aux objets ce que eux ne disent pas textuellement dans l'écran.
C'est une question qui devient très tangible dans la salle 6. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu
cette salle ? La salle 6, c'est une salle qui est toujours très particulière à l'IAC, c'est celle qui est en contrebas. Il faut descendre quelques marches, c'est très subtil, mais enfin on s'enfonce quand même un tout petit peu, toujours un peu plus profondément dans le propos quand on est dans cette salle-là. C'est une salle du coup dans laquelle sont disséminés beaucoup de détritus, à même le sol. Au milieu de la salle, il y a un grand baril en métal, un baril comme on trouve qui pourrait contenir, je ne sais pas, du pétrole, ou qui pourrait servir de brasero, on ne sait pas, qui a une très belle couleur d'ailleurs, demeurant, et qui est rempli d'eau de Méditerranée, à ras bord, vraiment à la goutte près, pour pas que ça déborde. Et donc ces détritus jonchent le sol, ils sont disséminés, et ça crée et les murs sont bleu clair, très pâle. Ça donne une sensation un peu d'abandon. Et c'est une évocation très assez difficile, enfin assez dure quand même, enfin une réalité qui est donnée à voir sous cette forme-là, ça fait penser à des plages, en fait, des plages côtières totalement banales, dans lesquelles, si on se promène avant que les services de la voirie ne nettoient les plages, on trouve énormément d'immondices, quoi, des détritus, des cotons-tiges, des papiers gras, des canettes, des bouteilles, des morceaux de seringues. Bon, là, c'est très allusif, hein, c'est du tout...
Et des papiers bio, ce qui est assez drôle.
Des papiers bio, c'est vrai, mais parce que c'est tout le paradoxe de notre société, c'est qu'on consomme peut-être de manière plus... intellectuellement plus éthique, mais les déchets vont quelque part de toute façon. Bref. Mais donc, dans cette salle, il y a une ambiance à la fois très sereine, puisque les murs, cette couleur est très calme au regard, et un propos d'arrière-plan, enfin, un sous-texte qui est un petit peu à charge, en fait, contre nos sociétés, qui regarde l'horizon, enfin, qui regarde la mer, qui prend plaisir à regarder la mer Méditerranée, mais qui en même temps ne se soucie pas de. D'où vont tous les détritus liés à la société de consommation.
Mm-hmm. Voilà. Et quand on est dans cette salle, on entend des espèces de voix. Qu'est-ce que c'est ? C'est des sirènes qui...
c'est une piste son qui a été proposée par Maria Teresa Alves. La figure de la sirène, elle est également très importante et elle est très très liée au phoque moine qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à un des guides. Le phoque moine est un phoque qu'on trouvait en Méditerranée, qu'on trouve encore, mais en très petit nombre maintenant, alors que c'était une espèce très répandue, qui a été trop chassée, parce que c'est un voleur de poissons, et les pêcheurs n'aiment pas ça. Et le phoque moine a un cri, un chant, qui se rapproche vraiment, parce qu'il est très aigu, d'une voix de femme. Et les artistes se sont amusés à reprendre beaucoup de littérature par rapport à la sirène, en passant dans Homère avec l'Odyssée, le mythe de la sirène, qui par ailleurs au départ n'est pas du tout une femme poisson mais une femme oiseau dans l'Antiquité, qui ne devient femme poisson qu'à partir du Moyen-Âge. Et les artistes se disaient qu'il était fort probable en fait que le phoque ait pu être confondu avec des voix, et on imagine bien que peut-être certains pêcheurs aient pu les confondre avec ces supposées sirènes. Peut-être que c'est aussi ce qui avait inspiré Homère, peut-être que certains navigateurs croyaient entendre des femmes dans l'eau, sachant qu'ils étaient coupés de toute présence féminine pendant des mois, parce que ces phoques étaient à proximité. Et donc, dans cette grande salle, à proximité de la salle où il y a le baril et les déchets, on entend des chants, des cris, on ne sait pas trop, c'est très entêtant, c'est parfois même très irritant comme son, ça dépend combien de temps on y reste. Et c'est un enregistrement de voix humaine qui a cherché à reproduire justement le chant du phoque moine, le cri ou le chant du phoque moine.
Un peu avant cette salle, oui. Il y a une série de plantes.
Oui.
Qu'est-ce qu'elles symbolisent ? D'où est-ce qu'elles viennent ?
L'attrait pour la botanique, c'est quelque chose qui traverse le travail de Maria Teresa Alves, plus particulièrement que celui de Jimmy Durham. Les plantes l'intéressent beaucoup parce qu'elles sont un peu une métaphore, en tout cas les semences, les graines des plantes l'intéressent beaucoup, parce qu'elles sont un peu une métaphore des pérégrinations humaines. Elles ont toujours accompagné le développement des espèces vivantes autour d'elles, qu'elles soient animales, humaines, après un certain temps. Et elles sont vraiment des compagnons de route. Elles sont souvent malmenées, elles sont souvent exploitées, elles sont très représentatives aussi de la façon dont on gère notre société, l'urbanisme. Alors, Maria Teresa Alves vient du Brésil, on pourrait étendre le problème à la déforestation, etc. Mais en tout cas, il y a un rapport de compagnonnage entre les plantes et les fleurs, les plantes, les arbres et les êtres humains qui lui importe beaucoup. Ça dit beaucoup de la bienveillance des hommes et de leur politique, en fait, de développement, leur rapport aux plantes. Et puis, en dehors de ça, je disais tout à l'heure, les graines, les semences aussi sont une métaphore des pérégrinations, de la capacité d'adaptation des populations. Donc, sans faire de raccourcis qui seraient malvenus, mais on va dire que Maria Teresa s'est beaucoup documentée sur les phénomènes migratoires, pas spécifiquement les récents, mais en tout cas les phénomènes migratoires, qui sont aussi beaucoup, très présents malheureusement en Méditerranée depuis quelques temps. Et elle a fait cette pièce que j'évoquais tout à l'heure, Seeds of Change, qui transportait en fait avec des cargos dans des ballasts de la terre, donc avec des graines qui étaient là, bon gré mal gré, et qui, au fur et à mesure des déchargements et des rechargements de marchandises, se semaient et en fait déplaçaient des espèces qui étaient parfois endémiques d'une région vers d'autres lieux, et qui pouvaient de fait commencer à coloniser ou à s'installer ou à s'adapter, ça dépendait du point de vue qu'on avait dessus, à d'autres endroits qui n'étaient pas leur lieu d'origine. Et cette métaphore-là, elle est très bienveillante chez Maria Teresa, mais elle traverse beaucoup son travail aussi.
Et on trouve aussi, et c'est ma dernière question, une référence aux mauvaises herbes.
Absolument, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Et c'est notamment présent à travers les peintures, qui sont des peintures de Marie-Thérèse Alves à nouveau. Et la peinture est projetée avec des supports végétaux. Le procédé de base était en fait lié à un moment, ça parlait de traumatisme, mais un moment un peu particulier dans la vie de l'artiste qui a un jardin et qui cultive des plantes, mais qui laisse aussi la place aux mauvaises herbes, enfin, ce qui est appelé mauvaises herbes. L'artiste, elle, conserve en général les mauvaises herbes au milieu des espèces qu'elle souhaite cultiver. Et elle part en voyage, elle revient, quelqu'un entre dans son jardin et a arraché, pensant bien faire, les mauvaises herbes. Donc elle trouve ces mauvaises herbes arrachées par terre, laissées comme ça, elle jonche le sol, et elle essaie d'en faire quelque chose, quand même de donner un sens à cette mort, et elle en fait une teinture. Et elle fait une première toile avec, un premier tableau avec, comme étant un peu l'extraction de ces plantes-là. Et ça donne ce qu'on voit aujourd'hui maintenant, c'est devenu maintenant un autre processus, mais qui laisse une part belle quand même aux végétaux, comme, à la fois comme sujet et comme outil, puisqu'elle projette de la peinture en gardant la vitalité en fait. Quand on pourrait avoir un geste vif d'arracher ou de planter, là c'est un geste vif de projection de peinture avec des végétaux. Et je pense que là, je ne vais pas dire Baptiste, je pense que le titre de la série c'est Wild Rejected Flora. Donc les fleurs sauvages et les mauvaises herbes rejetées. Voilà.
Merci beaucoup, Charlotte.
Merci.